Alors, je vais dire quelques choses sur Pourim, si vous permettez. Comment commence la Megillah déjà? Ah oui, oui. Voyez, Bimé Achashverosh. Voyez, Bimé Achashverosh, il fut à l'époque de Achashverosh. Cette expression, elle est très bizarre. L'époque de Achashverosh. Pourquoi l'époque appartient à Achashverosh? Achashverosh était un individu qui régnait à cette époque. Mais l'époque ne lui appartient pas. Vahi bimei Achashverosh, à l'époque d'Achashverosh. Ça veut dire quoi ça? Megillah aurait dû dire Hamelech Achashverosh malach al mea vesrim sheo medina, et voilà l'histoire. Mais comme introduction, on donne la génération, toute l'époque, on le dit, c'est l'époque d'Achashverosh. Ça veut dire quoi? Cette expression existe plusieurs fois. Vahi bimei Amraphel. Vahi bimei Shfota Shoftim. Vahi bimei Yehoyakim. Vahi bimei Yoshiyahu. Chaque fois, c'est la même question. L'époque appartient à Yoshua Melech. L'époque appartient à Yoyakim, l'époque appartient à Shfoftim, à Amraphel. Quel est le sens? Mais le sens, il est dans Sefer Bereshit, dans Parshat Bereshit, il est marqué Zé Sefer Toldot Adam, B'yom Hibaram. Voici le livre Toldot Adam, de génération des hommes. Sefer, c'est un livre. De quel livre il s'agit? De la Torah. Zé Sefer, la Torah, c'est le livre de Toldot Adam. Mais la Gemara nous dit le mot Sefer a un autre sens aussi, pas que la Sefer Torah. Mais Melamed Shehera HaKadosh Baruch Hu Sefer LeAdam HaRishon. Dieu, il a montré à Adam HaRishon le livre. Qu'est-ce qu'il était écrit dans ce livre? Dor, dor, veshoftaf. Dor, dor, vetzadikav. Dor, dor, uparnasaf. Par, dor, vedor, vechassidav. Dor, vedor, veniviav. Dor, vedor, vereshaav. Dieu, il a donné un livre à Adam Rishon. Regarde, chaque génération, il y a des tzadikim. Il y a des chassidim, des gens pieux, il y a des prophètes, il y a des juges, il y a des parnassim, des présidents, des rois, il y a des rechaïm, des voyous. Et voici le programme de l'humanité. L'humanité ne se passe pas par hasard, sauvagement, sans guide, et les gens y font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas comme ça. Le monde est structuré, pas seulement par des lois physiques, par les lois de la chimie, par les lois de la nature, même vis-à-vis de la mentalité des générations. Les rois représentent la nation et le plus grand roi représente sa génération et il donne une tonalité. Il injecte une mentalité dans cette génération. Et dans cette génération est accompagnée par des rechaïm et par des tzadikim, mais pas des simples rechaïm, des simples tzadikim. Dor, dor, verechaav. La génération est ses voyous. Dor, dor, vetzadikav. La génération est ses tzadikim, ses neviim, ses chassidim, ses parnassim. Parnas, c'est le président, c'est le chef, le roi. Ça veut dire une génération correspond, il y a toujours un ensemble. Nous, aujourd'hui, l'année 2019, c'est une génération, elle n'est pas comme la dernière génération. Elle n'est pas comme l'avant-dernière. Il y a la génération de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une génération après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une autre génération. Après la mai 68, a créé une nouvelle génération. Maintenant, le 21e siècle, c'est de nouveau. La mentalité commence à changer. Aujourd'hui, c'est la mentalité smartphone. Peut-être la mentalité gilet jaune. C'est lié. Les gilets jaunes et les smartphones sont liés. Pourquoi ils sont liés? Pourquoi ils sont tellement beaucoup à la... Les gilets jaunes, ils aiment de discuter sur les ronds-points. Parce que depuis quelques années, les gens ils ne parlent plus avec personne. Tout le monde est là son smartphone du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin. Les gens, ils ne se parlent plus. Et d'un coup, les gilets jaunes, ils ont compris, ah, il y a des gens qui veulent discuter, on boit du café, on grille, on fout un peu la pagaille. Et on est là, on discute. Ça y est, on peut vivre sans les smartphones. Il y a une nouvelle génération. Aujourd'hui, une génération qu'on peut lancer la Shanara bien sur tout le monde. Spécialement les hommes qui font du mal à des femmes. Aujourd'hui, les gens, ils parlent. C'est bien. C'est une amélioration vis-à-vis de ce qui s'est passé 20, 30, 40 ans que les hommes, ils ont abusé des femmes. Aujourd'hui, ils lancent en mouton et ils lancent tout la Shanara sur les hommes. C'est bien. Sauf d'avoir, à Kol Nishma, à la fin, tout va être entendu. À la fin, ne peuvent gérer le monde que des gens bien. Les Bahraï Shiva, ils vont gérer, il faut se préparer. Parce que tous les gens, ils vont trouver aujourd'hui des mouches sur chacun. Des bêtises qu'il a fait, ils vont disqualifier après l'autre, ils ont des barbes. Sauf d'avoir, tout va être entendu. Donc il n'y a que des gens bien qui peuvent gérer. Bon, mais ça, on verra pour plus tard. Chaque génération, il a son truc. Et son truc, après il y a des Rechaïm, il y a des Tzadikim pour équilibrer. Vayhi bimei Achashverosh. Alors il y a ici une époque Achashverosh. Quelle est la spécificité d'Achashverosh? C'est quoi son truc d'Achashverosh? Un roi comme tous les rois. Non, c'est pas un roi comme tous les rois. Baharoto, Asa Mishtel Chol, Sarav Avada, Frel Parasumadai, Apartemim. בהרותו, את עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים, מוני משמעת, ובמאה, אלור, על מיטות זהב הכסף, ודר וסוחרת, והשקות בכלי ש... קיידים מכלים שונים. בוא, 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 לבן, כי כולה פלו, לביונת קומוש, אוללה, אי קרן, בהרותו, את עושר כבוד מלכותו, היא לטל, שרי שסלור, אלה דיאמון, c'est un morceau, ce Achashverosh. Tout l'argent que les générations ils ont ramassé, les types, ils sont en train, dans 180 jours, en train de festoyer. Il claque tout son argent. À la fin, il était bancrotte. Et à la fin, il était obligé de lever des impôts parce qu'il a tout claqué l'argent. C'est un morceau, c'est une mentalité. Et après, avec les femmes, tous les jours, pendant depuis la troisième année qu'il a tué Vashti, jusqu'à la septième année qu'Esther elle a été couronnée, ça fait 4 ans, et tous les soirs, il a une autre... Qu'est-ce qu'il est fou, les gars? 4 années, 365 jours, ça fait combien de jours? 1200, il a connu 1200 pakistanaises, hindouses, indoises, et françaises, et irakiennes, et... un malade mental. Mais c'est ça, Achashverosh. Et ça donne... Et toute la génération comme ça. Tout le pays était comme ça, parfumé par ce dégoût. Et la Gemara nous dit, Asara kabin gasut yarda le olam, tisha lakra eilam. 10 mesures de gasut sont descendues au monde. 9 a pris eilam. Shushan, c'est la capitale du pays eilam. Yamadai ou Paras et eilam. Shushan, c'est une partie de l'Iran d'aujourd'hui, s'appelle Eilam. 10 mesures de gassout. C'est quoi gassout? Gassarouach, hein? Quoi? J'entends pas? Grossièreté. Des gens primaires, des gens crâneurs. Gass, gass libo bahora'a, racha, choté racha, ve gassarouach. Il est gonflé, le gars. Il est orgueilleux. Il aime la viande. Grossièreté. Il mange, il boit comme un animal. Et buvait. Gassout. Mais la Gemara nous dit, Asara kabin aniyut yarda le olam. 10 mesures de pauvreté descendues au monde. Tisha natla Babel. 9 a pris Babel. La société en Babel était pauvre. Et une le reste du monde. Et Eilam... C'est 9 cabines de gassout. Maintenant, où il y avait plus de Torah? À Babel ou à Eilam? Où ils étaient les grands Chachamim? À Babel. Pourquoi il y avait les grands Chachamim à Babel? Parce qu'il est marqué Nebuchadnezzar, il a exilé Shivat Alafim, Hacharash, Vahamazger. Les grands amis de Chachamim d'Yerushalayim, au moment de le Chorban du premier Beth Amikdash, sont partis en Babylonie, mais pas au moment de Chorban, 11 années avant le Chorban. Ish Yehudi, Haya Beshushan, Ebirash, Mordechai, Ben Yair, Ben Shivim, Kish, Ish, Mini. Asher Hegla, Nebuchadnezzar, Im Hagola, Asher Oglata, Im Yechonia, Melech Yehuda, Asher Hegla, Nebuchadnezzar, Melech Babel. Ça veut dire quoi? Avec Yechonia, il est parti 11 années avant le Chorban du Beth Amikdash. Hachem, il voulait protéger la Torah, il voulait sauver la Torah. Pendant la destruction du Yerushalayim, il y avait des massacres, 940 000 personnes. La Gemara raconte qu'en Gittin, ils étaient zigouillés. 940 000 personnes, on a. Les gens qui ont survécu sont devenus tous dingues, tous de fous. Mais Akadosh, il voulait que les Tamid de Chachamim ne voient pas tellement ce sang et toutes ces tortures qui étaient au moment de Chorban. 11 années avant le Chorban, il est marqué dans Sefer Yirmia, dans Sefer Malachim, Yechonia, il a pris les 7000 Tamid de Chachamim, il les a installés à Babel, dans la ville de Nahardaï, dans la ville de Hutzal, Shev Veyativ, il y avait un choul, Shev Veyativ, qui avait la Shrina là-bas, qui était avec des pierres d'Yerushalayim. Ils étaient tous installés à Babel, et là-bas, les Yeshivot commençaient à fleurir. Babel est devenu un centre de Torah plus que 1000 ans. Babel, mais peu de gens, ils étaient à Shushan. Et Mordechai, il est parti avec qui? Avec Yechonia, Melech Yehuda, comme ça on dit dans la Megillah. Donc il est venu à Babel. Alors comment il se trouve? Comment il se trouve à Eilam? Comment il se trouve à Shushan Abira? T'es le grand rabbin de Shushan Abira, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Mais il est parti avec Yechonia à Babel. Parce qu'il est marqué dans Sefer Daniel que Daniel, la première année de Belshazzar, Belshazzar, il a régné. Nebuchadnezzar, il a régné 26 ans après la destruction de Beth Migdash. Après son fils Evel Merodach, 23 ans. Après son fils Belshazzar, 3 ans. Et après est venu le maître Koresh. Alors, la première année de Belshazzar, Daniel a eu un rêve. On lui a montré qu'après Babel, qui va régner? Va régner les Mèdes et les Perses. Il a reçu une voix dans Sefer Daniel. Et la troisième année, il est marqué Sefer Daniel, la troisième année, année Daniel, a été Beshushan Habira, Be'eretz Eilam. Attends, qu'est-ce qu'il faisait? Daniel était le premier ministre de tout l'empire babylonien. Il travaillait jour et nuit au palais royal, Daniel. Qu'est-ce qu'il faisait maintenant à Eilam? C'est qu'il a fait un voyage à Eilam. Pourquoi il a fait un voyage à Eilam? Parce qu'il a vu Benevoie qu'après Babel va régner Madaï ou Paras. Il y aura Galout, Madaï ou Paras. Quand on dit Galout, Yarba, Galiot, d'abord les Babel, après Madaï ou Paras, après arrivent les Grecs, après arrive Edom. Un Galout, ça veut dire des Xérot. Donc il dit, les prochains Xérot viendront de Madaï ou Paras. Mais la capitale de Madaï ou Paras, c'est à Eilam, à Shushan Abira. À Shushan Abira, il se passera un événement. Et cet événement, il faut prévoir, sauver. Il a dit, Mordechai, viens. Mordechai aussi était à Babel. Viens, Mordechai. Toi, tu connais les 70 langues. Toi, tu es un politicien. Toi, tu es un Chacham Gadol. Viens. Je vais te nommer grand rabbin de Eilam. Ish Yehudi haya b'Shushan Habira. C'est quoi Shushan Habira? Après, il est marqué Ve'ir Shushan Navocha. Il y a Ir Shushan ou Shushan Habira. Comment s'appelle cette ville? Il dit la grande ville, que la ville était coupée en deux. Shushan Habira, c'est Shushan, la capitale, c'est la partie administrative. 127 pays administrés, il faut beaucoup de ministres et des. C'est une grande organisation. Les lettres, il y avait des traducteurs, les lettres, ils étaient traduits en toutes les langues. Il y avait une grande administration. Ça, c'est Shushan Habira. Après, il y avait une deuxième partie de la ville, Ir Shushan. Ir Shushan, c'est les Juifs, ils habitaient. Ir Shushan Avocha, ça, c'est tous les Juifs. Et Ir Shushan Habira, c'était la partie administrative comme Washington. C'est une ville, elle est coupée en deux. Il y a Washington DC. C'est quoi DC? C'est la partie politique. Où ils habitent les politiques et tous les gens avec cravate. c'est à Washington. Après, un deuxième partout, il y a des Arabes, il y a des Noirs, il y a les Vétros, il y a les... Il y a, comme ici, comme... Il y a deux villes, à Shushan aussi. Et Mordechai, il a habité où? Dans quelle partie il a habité? Mordechai, il a habité où? Ish Yehudi Hayab, Shushan Habira. Mais qu'est-ce qu'il fait à Shushan Habira? Mais il est né juif. Pourquoi il habite à Shushan Habira? Pourquoi il n'habite pas à Yer Shushan? Parce que Daniel, il est nommé, tu restes avec les politiques, tu dois surveiller là-bas, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, après Bechol Yom, Mordechai Mitalech, Ratzal Adat, Maslom Esther. Et il était nommé Béchar Amelech. Et il a eu accès au dossier. C'est lui qui a Biktan Vaterach, etc., toute l'histoire. Alors, ça c'est Mordechai. Maintenant, la Gemara nous dit. Bavel zachta lilmod velo zachta lelamed eilam zachta lilmod velo zachta lelamed. À Bavel, il y avait beaucoup d'ishivot, beaucoup de tamidei chachamim, et à Eilam il n'y avait pas. Daniel n'avait pas d'yeshiva, seulement au cheder il a enseigné, mais il n'y avait pas d'avrechim du kollel. Pourquoi? La Gemara dit parce que siman de gasut aniut haTorah. Là où il y a des gassoutes, où les gens ils aiment de viande et le vin et, la crânerie et le bluff et les festoyer, aniuta Torah. Là, il y a une pauvreté de Torah. Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. L'histoire de Pourim était pour réveiller qui? Réveiller qui? Qui se fait réveiller par l'exéra? Tous les juifs? Bechol makom makom, shedar melech. Adoto Himegia, Evel, Evel, Tzom la Yudim, Tzon Uvri Umispet. Tous les endroits où est arrivé la Xéra, tout le monde s'est mis à pleurer, tous les juifs. Et quand il y avait la fête, Chol Makom Makom She, Dvaramelech Adoto Himegia, Simcha Vassason la Yudim, Ishte, Vyom Tov, tout le monde se réjouit. Ça c'est partout. Mais à Shushan, c'était puissance 10. À Shushan, Aïr Shushan Avocha, Vaisak, Zaka, Gdola, Omara, et il est sorti, et trois jours on a. Il a hurlé, il a crié. À Shushan, les Juifs, ils ont vécu l'événement 10 fois plus fort que dans le reste du monde. Et quand il y avait la joie, la joie était 10 fois plus, comme le Tsahar au début était 10 fois plus. Alors Dieu voulait réveiller qui? Tout le peuple juif ou les gens de Shushan? Tout le peuple juif, mais plus spécifiquement les Juifs de Shushan. Eux devraient vivre ça plus intensément. Pourquoi? À Babel, on enseignait la Torah. Mais à Shushan, les gens, ils sont allés au festin, les Juifs. Ils ont bu, ils ont fait des bêtises pendant le fameux festin d'Arachvéros. Les Juifs de Shushan, Dieu, ils voulaient piquer plus fort. Ils voulaient les réveiller plus fort. Ça, c'est la génération de Arachvéros. Une génération de Gassout. Et donc, la gassoute a provoqué un électrochoc. Haman, il a provoqué un électrochoc. L'époque d'Achashverosh, l'époque de gassoute. Et les Juifs aussi, c'était comme ça. Il fallait un tzaddik, dor v'reshaav, dor v'tzaddikav. Il fallait un tzaddik au Mordechai, et c'est lui qui a fait une palette. Lui, il a réveillé les Juifs, et même là, il a sauvé la situation. C'est pour ça que la Megillah commence par Harotot au Shokot Malchoto. Pourquoi la Torah nous raconte? La Torah, il aurait pu abréger toute cette histoire. Il a fait un michté et on a demandé Vashti. Elle ne voulait pas venir. Elle a tué Vashti. On a mis Esther à la place. On aurait pu terminer ça très facilement. Mais elle voulait raconter toute cette histoire parce que ça, c'est le fond de l'histoire. C'est un laisser-aller. Les gens, ils ne voulaient pas étudier. Donc, il est venu intervenir cette histoire. Mais essayez de comprendre un petit peu plus. La Gemara dit Haman. À quoi ressemble Haman? Il y a un Gemara Megillah. La Gemara dit, pour donner une fable, pour comparer Haman, à quoi il ressemble? Il y avait une fois un corbeau. Et ce corbeau, il a fait un nid au bord de la mer. Vous connaissez cette Gemara? La mer, il y a la sable, il y a un corbeau, il a installé son nid là-bas. Très bien. Est venue la marée haute, elle a Denis, il est parti. Alors le corbeau, il revient, il voit que ses enfants, ils ne sont plus là, les petits oisillons, ils ne sont plus là. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Mère, elle m'a coupé le truc, mais c'est pas possible. Bon, je te jure, mère, je vais t'assécher. Et il a pris dans son bec des graines de sable, il l'a jeté dans la mer. Il a dit, je vais prendre le sable et je vais assécher la mer. Alors comme ça, Aman, il a dit, je vais détruire les Juifs. Et à Kadesh Baruch Hu, il sourit, mais quel imbécile. Un petit corbeau, il veut assécher la mer. Mais moi, le bon Dieu, comme ça il dit la Midrash, mais moi, le bon Dieu, quand j'ai voulu détruire les Juifs, ça ne marchait pas. Il est venu, Moshe Rabbeinu, il ne m'a pas laissé. Il dit, mais non, tu ne fais pas ça, Zohar, Israël, Yaakov, je ne te laisse pas faire, tu ne vas pas faire ça. Mais moi, le bon Dieu, je veux détruire, je ne veux pas les détruire. Et toi, Aman, tu veux les détruire. Mais Raham de la Manestan, c'est toi qui t'as détruit. Tu ne vas pas détruire les Juifs. Voilà le Midrash connu. Essayons de comprendre. Quand Chachamim font une fable, c'est pas simplement c'est joli, c'est comme ça, c'est bien. Mais les fables de Chazal sont pourquoi un corbeau, pourquoi pas un autre oiseau? Hein? Quoi? Il n'est pas cachère, ça c'est sûr. Aman, je ne vais pas le manger. Ni pour lui, ni pas pour lui. Ah, mais il n'est pas cachère. Quoi encore? Il y a d'autres, beaucoup, d'autres oiseaux qui ne sont pas cachères. Corbeau? Il a fauté dans la teva. Hein? Il est arzard, il est cruel. Très bien. Maintenant, il a mis son nid au bord de la mer. C'est quoi la mer? C'est quoi le nid? C'est quoi le maire qui est venu pour emporter le nid? Ça correspond à quoi toute cette histoire? C'est quoi le machal? C'est quoi le nimchal? Pourquoi on parle de nid, d'oiseau, qui se fait emporter? Mais le pshat, il faut lire le livre de Ezra. Dans le livre de Ezra, il a été parmi les constructeurs du deuxième Beth Amikdash. 52 années après le korban du premier Beth Amikdash, le roi de Mède, il s'appelait Koresh. Koresh, il a publié « Je permets aux Juifs de monter à Yerushalayim pour construire le Beth Amikdash. » Oui. Yirmiya Navi, il a dit « Il y aura 70 années, et après les Juifs, ils vont construire le Beth Amikdash. » Il y avait une chéla, les 70 années, est-ce qu'on compte à partir que Nebuchadnezzar est devenu le roi, ou à partir de la Beth Restruction. 52 années après, c'était 70 années après que Nebuchadnezzar a pris le règne. Il a dit, les Juifs, ceux qui veulent monter Yerushalayim peuvent monter Yerushalayim et qui construisent le Beth Amikdash. Très bien. Tout de suite, il y avait des prophètes, Zachar et Malachi, sont montés Yerushalayim, Chagai et Anavi. Avec 42 000 Juifs, ils sont montés. Ils ont commencé à faire des korbanot. Ils voulaient construire le Beth Amikdash. Il y avait Yerushalayim, Tsarei, Yehuda ou Binyamin, des antisémites, composés par une partie la plus importante, c'est les Samaritains, ce fameux peuple qui se convertit à l'époque de Sanhérif. Des Samaritains qui habitaient là-bas, eux, ils voyaient les Juifs venir avec un mauvais œil, et il y avait 10 enfants de Haman qui habitaient Yerushalayim. 10 enfants. Haman, il a envoyé ses enfants à Yerushalayim, et les enfants, ils ont dit aux Samaritains, ne laissons pas les Juifs venir ici. Ils ont écrit une lettre à Koresh. Ce lettre, il est dans Sefer Ezra. Monsieur le roi, il faut que vous sachiez que Jérusalem, c'est une ville des rebelles et des voyous. Et les Juifs, jamais ils veulent se soumettre à aucune autre nation. Ils ne payent pas des impôts aux autres, comme si c'est obligé de payer des impôts. Oui. Alors, aux goyim, aux autres nations, on paye un autre roi. Et c'est une rebelle. Tout le monde, personne ne peut s'en... Depuis Shlomo HaMelech, c'est des casse-pieds. Il ne faut surtout pas laisser les Juifs construire Yerushalayim. Si vous laissez construire Yerushalayim, les Juifs, ils vont prendre la partie ouest de tout votre empire. Vous allez perdre la moitié des impôts. Parce qu'il me retourne, Vat Kush, depuis l'Inde, Pakistan, Afghanistan, Iran, l'Irak, Eretz Israël, après ça va en Égypte, et le Soudan, et l'Éthiopie, tout. Et Yerushalayim, c'est entre les deux. La partie ouest, vous allez perdre des impôts, vous allez voir. ne laissez pas les Juifs venir. Et il a reçu ça à Koresh. Il a dit, je retire ma permission. Vous n'avez pas le droit de faire le Beth Amikdash. Il l'a retiré. Après, il est marqué dans Sefer Ezra, il est mort. Après, venu Achashverosh, le roi. Ou bimé Achashverosh, katvu sitna. De nouveau, les enfants de Haman, ils ont écrit des lettres. Ne laissez pas. Achashverosh, ne permettez pas. D'ailleurs, il est intéressant. Quand Esther, elle est venue chez Achashverosh, qu'est-ce qu'il a dit à Achashverosh? Malach Esther Amalka. Qu'est-ce que tu as, maman? Qu'est-ce que tu as? Atratzi Amalchut Vetead. Jusqu'à la moitié du royaume, je t'offre. Il est généreux, le type. Jusqu'à la moitié du royaume, je te. Rashi raconte, c'est quoi la moitié du royaume? Hein? Zubinya Bet Amikdash, qui est au milieu de son royaume. Et Chatzi, Chatzitza. Yerushalayim, c'est la Chatzitza, le Bet Amikdash, c'est vers un Chatzitza. Je te permets tout, sauf Binya Bet Amikdash, je te permets pas. Mais Achashverosh ne savait pas qu'Esther est les Juifs à l'époque. Esther, elle était peut-être une Hindouise ou une Pakistanaise ou une Chinoise. Il est complètement fou. Achashverosh, il est dans son palais. Il a dit, voilà, les Juifs, ils vont partir à la casse. Voilà, j'ai donné à Haman super bien. Ah, Esther Amalka. Ah, voilà le sceptre. Bien, Esther Amalka. Qu'est-ce que tu veux? Jusqu'à la moitié du royaume, je te donne tout, sauf Jérusalem, sauf les Binyan Bet Amikdash. Mais qu'est-ce qu'il me parle de Binyan Bet Amikdash? Il ne sait même pas qu'elle est juive. Et pourquoi il parle de Binyan Bet Amikdash? Parce que la permission qu'il a donnée à massacrer les juifs, c'est parce qu'il ne voulait pas le Binyan Bet Amikdash, parce qu'il avait peur de perdre la moitié des impôts. Donc lui, il était dans son rêve. Enfin, les juifs, ils ne vont pas me casser mon royaume. Et quand Esther, il est venu, lui, il est dans son rêve. « Bet Amikdash, tu ne peux pas me demander. » Parce que c'est ça. Mais on va revenir ici. On ne laisse pas faire le Bet Amikdash. Très bien. Qu'est-ce qu'il a marqué? Alors, il a mis Haman, il a mis ses enfants là-bas. Les enfants, c'est marqué Shamshai. C'était le secrétaire. Il a dit, écrivez pas que... Moi, je suis un antisémite. Haman était un antisémite, il ne supportait pas les juifs. Mais ils n'ont pas dit, moi, je suis un antisémite. Ils ont dit, monsieur Koresh, retirez la permission de peur que vous allez perdre des impôts. Toujours les antisémites, ils emballent leurs paroles, leur haine, avec une enveloppe économique, politique. Quand ils veulent influencer les chefs d'État pour faire une politique anti-juif, on le fait soi-disant, c'est toujours enveloppé dans un projet politique. Mais en vérité, c'est la haine qui... Ça, c'était les enfants de Haman. Alors, quand on dit Haman, il est comparé à un corbeau qui a mis son nid au bord de la mer. C'est quoi son nid? C'est où le bord de la mer? C'est Yerushalayim. Il a mis ses enfants là-bas. Est venue une vague, elle a emporté. Quelle était la vague? La vague, c'était Hagesrar Malachi avec les 42 000 juifs. Et on va lui construire, on commence à faire des corbanotes. Alors Haman, il a piqué une crise. Je vais assécher toute la mer. Je vais détruire tous les juifs. Je vais les tous détruire. Ça, c'est le machal. Mais maintenant, regardons un petit peu à la fin de Megillat Esther. Qu'est-ce qu'il est marqué? Ça vous dit quelque chose? Hein? Non, je viens d'inventer un pasouk. C'est pour ça que tu ne le connais pas. Et le roi Achashverosh, il a imposé des impôts sur la terre et sur les îles. Oui, c'est un pasouk qui n'existait pas, c'est juste. Il existe ou n'existait pas ce pasouk? À la fin de Megillat Esther, il est marqué ce verset. À la fin, c'est marqué, Tichtob Sefer, Esther, il a écrit le Megillat Esther, après les trois pasoukim avant la fin, et le roi Achashverosh, il a imposé un impôt. Pourquoi on nous raconte ça? Quel rapport avec la choucroute? On raconte juste à Pourim, pourquoi tu me racontes qu'il a demandé des impôts? Mais tous les rois, ils demandent des impôts. Mais Macron, il demande des impôts. C'est pas un hédouche. Tel empereur, il ne demande pas des impôts. Pourquoi la Torah nous le raconte? Alors, qu'est-ce qu'il est marqué à côté? Ou le chol maase tokfo gourato. Ou le gdoulat porachat mordechai. Halohem ktuvim. Pamalche, besifre malche parasumadai. Toute la grandeur de Mordechai. Tout ce qu'il a fait est écrit dans les livres de chroniques de Perse et de Mède. Ou après, le dernier verset, et Mordechai, Doresh Tov Laamo, Vedover Shalom Lachol Zaro. Mordechai, il a cherché le bien de son peuple. tout ce qu'il a fait, c'est pour faire du bien aux Juifs. Pourquoi c'est comme ça qu'elle termine la Megillah. Doresh tov la'amo v'dover shalom l'chol zaro. Il cherchait la paix des Juifs. Pourquoi on nous raconte ça? Mais évidemment, il cherchait la paix des Juifs. Quel hadouche. T'as déjà vu un manik des Juifs qui cherche pas les biens des Juifs? Pourquoi on me raconte ça? C'est parce que Mordechai, il est devenu le premier ministre. Qu'est-ce qu'il a fixé? Il a influencé le fils d'Esther, Dariavesh le deuxième, qui va permettre la construction de Beth Amikdash. Et le deuxième Dariavesh, qui a régné après Achashverosh, d'abord Kanbouzi, et après Dariavesh, le fils d'Esther, il a régné. Il a dit aux Juifs, montez à Yerushalayim et construisez le Beth Amikdash, et je vous paye aussi d'argent. Alors il a donné une lettre à Ezra Sofer. La lettre, il est écrite dans le livre Ezra. Toi, Ezra, tu es la chacham des Juifs. Je te donne le plein pouvoir de créer un État juif. Tu seras le grand rabbin des Juifs. Tu nommes des juges. Tu as enseigné la Torah à tous les Juifs qui ne connaissent pas. C'est le roi Goï, soi-disant Goï, c'est les Juifs, c'est le fils d'Esther. Le roi de Perse, plus grand empereur du monde. Tu vas enseigner la Torah aux Juifs. Tu vas faire appliquer la Torah. Ceux qui ne t'écoutent pas, tu le puniras. Et tu as fait attention de payer des impôts au roi Perse. Mais ceux qui s'occupent du Beth Amikdash et tous les clercs Kodesh, tous les gens qui enseignent la Torah, eux, ils sont dispensés de payer des impôts. Voilà la lettre qu'il a donnée à Ezra Sofer. Avec ça, Ezra Sofer, il a fait l'Anjelin Zegdola, ils ont nommé des juges, et ils ont administré tout l'État juif avec la religion, comme ça a commencé le deuxième Beth Amikdash. Avec le plein pouvoir de Dariavesh. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait à Mordechai? Vayasem HaMelech HaChashverosh al Haaretz V'Yayam. Et le roi Achashverosh, il a demandé des impôts. Qui a demandé les impôts? Achashverosh ou Mordechai? Mordechai était le premier ministre. Ouais. Vous savez comment ça marche dans un pays? Hein? Il y a M. Macron et après des ministres. Hein? Et quand il faut faire une loi qui n'est pas très populaire, qui est-ce qui le fait? On a dans nos premiers ministres à faire. Les présidents, ils aiment d'être au-dessus. Quand c'est quelque chose pas populaire, que les gens, ils n'aiment pas, on donne aux ministres. Après, si ça se truc, on a un fusible pour le faire sauter. C'est comme ça qu'on fait la politique. On fait toujours un fusible. On met quelqu'un comme ça, lui, qui va payer. Achashverosh, il dit à Mordechai, tu sais, il faut des impôts. La caisse, elle est vide. Mordechai dit, d'accord, pas de problème. Je vais imposer des impôts. Vous avez raison. Je demande des impôts. Que tout le monde paye des impôts. Il y avait des Juifs. Vous payez aussi des impôts. Oh là là, le rabbin, il nous embête. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait ce Mordechai? Il nous demande des impôts. Mais qu'est-ce qu'il a fait Mordechai comme Chochma? Qu'est-ce qu'il a fait comme Chochma? Il était le premier ministre en Perse. Mais toute l'administration a été goy et des antisémites. Et lui, le rabbin, il est le premier ministre. Mais ils vont me mettre dehors. Mais ils vont parler mal à Achashverosh sur moi. Comment je me maintiens? Je demande des impôts. Là, Achashverosh va me soutenir. Il est bon, ce Mordechai. Ou le chol porasat gdot Mordechai, halohik tuva besefedeyum, il a publié dans tous les pays de Perse et de Mède. Je soutiens le roi et des impôts et trucs. Ça y est, il s'est acheté la protection. Après, tout était fait pour le bien des Juifs. Parce que pourquoi les rois perses et Achashverosh ne voulaient pas permettre le bien de Beth Amikdash? Parce qu'ils avaient peur que les Juifs vont faire un état à eux et ils ne vont pas payer des impôts. Si on ne paye pas des impôts, ils vont nous casser les pieds, ils ne vont pas laisser le deuxième Beth Amikdash, ils ne vont pas laisser que les Juifs retournent en Eretz Israël. Je suis obligé de montrer que nous allons payer, nous allons être soumis. D'ailleurs, vous avez peut-être vu dans un Mishnah Maseret Tamid plusieurs fois dans la chasse, le deuxième Beth Amikdash, Yerushalayim était entouré par un mur. Et le Beth Amikdash, il y avait un mur. Il y avait une porte qui s'appelait Shar Shushan. Ça vous dit quelque chose? Hein? C'est quoi Shar Shushan? Hein? Il y avait une gravure dans les... Il y avait une chambre qu'on appelait Shushan, où était gravée la ville de Shushan. Comme ça, un joli truc, gravure de Shushan. Pourquoi? Pour quelle raison ils ont demandé? Pourquoi ils ont fait ça? Le roi Dariavesh, il a demandé, vous allez graver Shushan, chaque juif qui monte à Yerushalayim au Beit HaMikdash, il doit savoir le pouvoir, c'est les Perses, vous n'allez pas vous rebeller, vous allez payer vos impôts. Il a demandé à Zir, Ezra, tu vas payer des impôts, sauf ceux qui enseignent la Torah, ceux qui étudient, les Kohanim, les Lévim, tous ceux qui s'occupent de la Torah, mitzvot, eux, ils sont dispensés. Tout était fait pour les biens des Juifs, mais Mordechai était obligé d'imposer ça afin qu'on laisse tranquille. Aujourd'hui aussi, c'est comme ça. Quand on paye des impôts, on paye des impôts. Il ne faut pas croire que les Juifs, ils n'ont pas tour des impôts et on fait les magouilles. Alors maintenant, après, ça tombe dessus. On paye les impôts et après on te laisse tranquille, après tu peux faire ta religion. Très important à savoir. Mais regardons un petit peu plus loin. Qui est-ce qui a écrit la Megillah? Il a écrit seul?
Avec
Esther. Mais qui a pris l'initiative, Mordechai ou Esther? D'où tu sais? C'est marqué dans la Megillah. Vatichtof Esther Hamalka, Bata Vichail, Mordechai Yehudi et Kol Tokef. Vers la fin, Vatichtof Esther Hamalka, Bata Vichail, Mordechai Yehudi et Kol Tokef. C'est Esther ou Mordechai? C'est Esther la première qui a pris l'initiative. Comment ça se fait qu'Esther n'est pas Mordechai? Ça a fait douche, non? Comment ça se fait que c'est Esther et pas Mordechai? La Gemara dit dans Masechet Megillah qu'Esther, elle a écrit une lettre au Anshe Knesset de Gula qui était au Yerushalayim. Elle a dit, Kitvouni le Dorot, je vous supplie, faites rentrer le Megillat Esther dans le Tanakh. Faites instaurer la fête de Purim. Instaurez la mitzvah de raconter. Je voudrais que tous les juifs y racontent chaque année les Megillat Esther et qu'ils font la fête. Et les Chachamim, ils ne voulaient pas au début. Ils ont dit, on n'a pas le droit d'inventer des nouvelles mitzvot qui ne sont pas marquées dans la Torah. Et la supplié, trouvez un heter, débrouillez-vous. Et les Chachamim, ils ont cassé la tête et ils ont trouvé un pasuk, Ktov zot zirgon besefer vasim bozne Yeshua, Ktov zot, ça c'est la guerre de Yeshua, besefer, Shaul HaMelech, ça c'est, ils ont trouvé un pasuk qui me ramasse qu'il y aura une fête encore de Purim, une guerre contre Amalek. Très bien. Alors ils ont instauré Purim. Pourquoi Esther est voulu à tout prix et Mordechai n'a pas pris l'initiative? C'est Esther qui a pris l'initiative. Pourquoi Mordechai n'a pas pris l'initiative? Probablement le pshat il est que Mordechai avait peur de raconter l'histoire. Parce qu'Esther était une prophétesse. Une tzadekette, il n'y avait pas une femme comme ça. Elle était obligée de vivre avec un goy à Hashverosh. Un goy tamé, voyou comme il est. Et elle est obligée de vivre avec ce goy. C'est une honte pour Esther. Moi, je ne veux pas écrire ça. Alors Esther, elle dit, je m'en fous. Je veux que ce sera écrit, ça ne me dérange pas. Mais c'est honteux pour toi. Mais je veux. Bon, si tu veux, d'accord, si tu mochel ton kavod, d'accord. Mais pourquoi elle voulait? Pourquoi elle était mochel son kavod? Comment ça se fait? Mais on peut poser la coucha sur le bon Dieu lui-même. Il voulait sauver les juifs. Il ne peut pas sauver les juifs sans qu'Esther la tzadek ait vie avec un goy. Il n'y a pas d'autre moyen. Hachem, il en a mille possibilités de sauver les juifs. Pourquoi ça passe par un chemin bizarre comme ça, qu'elle se marie avec un goy? Alors la Gemara nous dit, est-ce qu'elle a fait un avira de vivre avec le goy ou pas? Hein? Honnête, vous avez fait la souga dans Sanhedrin? Esther Karka Olam, est-ce qu'elle était passive? Une femme passive, un goy qui prend un revolver, il dit à la femme, tu te laisses faire sinon je te loge une balle dans la tête. Elle n'est pas obligée de refuser. Tu prends mon corps, tu fais ce que tu veux, moi je ne fais rien. Tu fais la avira. C'est passivement, c'est permis, c'est ce qui est marqué dans la Gemara Sanhedrin. Elle n'a pas fait d'avira. Mais c'est quand même pas très joli. C'est quand même mieux pour une femme juive. C'est pas passé par ce guinon. Et comment ça se fait que le bon Dieu l'a fait comme ça? Mais le pshat, il est marqué, à l'époque de Mordechai et Esther, il y avait un prophète en Eretz Israël. Il s'appelait Zacharia. Zacharie a un avis. Hein? Zacharie. Zacharie, il a fait une prophétie sur la guerre de Gog ou Magog. Il est dit, viendra un moment que les Juifs veulent construire Beth Amikdash, ils vont venir à Yerushalayim, et tous les goyim vont se réunir, ils voudront massacrer les Juifs. Ve'atza Hashem bayom ahu, ve'nicham bayom ahu. C'est marqué que les goyim vont retourner à Yerushalayim. Ve'hanashim tishachavna. Et les femmes vont, les goyim vont toucher les femmes. Va rester, la moitié de la ville va sortir à Galut, l'autre va rester. Et après Dieu, il va venir, il va faire des nissim et des flottes, il va massacrer l'armée de Gog et Magog, et Mashiach va régner. Voilà, c'est marqué dans Zacharia. Zacharia, il parlait pour le deuxième ou pour le troisième Beth Amikdash? Troisième. Donc, il ne parlait pas pour son époque. Mais quand on regarde bien dans le Nevi, on voit qu'il y a un safek qui parlait à son époque. Le Malbim m'explique, il y a beaucoup de prophéties que Mashiach peut venir maintenant, Beth Amikdash. Il y avait un safek si le deuxième Amikdash serait le dernier ou pas. Et le Gemara nous dit, si tous les Juifs de Babel seraient montés à Yerushalayim avec Ezra, jamais le deuxième serait détruit, ce serait éternellement. Mais les Juifs ne sont pas venus que peu, au même moment le deuxième Amikdash a été détruit. Mais si tous les Juifs seraient venus, tout ce qui est marqué pour Mashiach serait réalisé dans leur époque. Donc, imaginons-nous, Zacharia, il est là à Yerushalayim, pendant l'époque de Purim, et écrit sur tous les toits, venez à Jérusalem, on va construire le Beth Amikdash, et peut-être Mashiach va venir maintenant, et sachez les gars, ils vont tous s'y réunir, et on voudra nous massacrer, et les femmes vont être... Alors, si une femme à Babel, elle entend ça, elle dit, je reste ici, que le Messie vient, que débrouillez-vous, une fois que tout est réglé, je viens, mais moi, je ne vais pas rentrer dans ce salade. Tu vas rentrer dedans quand le prophète il dit qu'il y aura la guerre de Gog et Magog si tu viens là-bas. Mais le Navi il a voulu que les Juifs ils viennent. Et si ça arrive, les femmes n'ont pas fait d'Avira. Esther est là. Qu'est-ce qu'Akadébouch il a fait? Il a pris Esther, la plus grande sadéquette, et le Goy l'a obligé de vivre avec elle. Esther il a dit, je ne me gêne pas, que tous les Juifs le sachent. Ce n'est pas un Avira. Et c'est comme ça que Dieu veut comme ça. Il a voulu que je me salie. C'est comme ça le chemin de Dieu. Ce n'est pas mon problème. Et que toutes les femmes juives le savent, et que tous les juifs. Si ça va arriver, c'est ça que Dieu a voulu. Ce n'est pas une raison de ne pas monter à Yerushalayim. Monter, ce que Dieu fait, à Dieu fait. Plus que ça, Daniel, il a dit qu'après que les Mèdes vont tomber, qui va prendre le pouvoir? Les quatre malchouyot, après, c'est les Grecs. Il a vu quatre animaux. Le premier, c'est le lion. Le lion, c'est qui? Hein? Nebuchadnezzar. Le deuxième animal que Daniel il a vu, c'est qui? L'ours. Ce sont les Perses. Ils mangent la viande comme un ours. Troisième, c'est qui? C'est le panthère. Qui c'est le némer? Qui c'est le némer? Les Grecs. Et le quatrième, c'est la bête terrible. Ça, c'est les Romains. Alors, la troisième bête, c'est le Némer. Azkanema, Azout. Azout panim, ça veut dire de l'immoralité. Les Grecs, quand ils sont venus, première xéra qu'ils ont fait, Kol, Betula, Shéniset, Tibael, Hegmon, Trila. Toutes les femmes juives, le jour du mariage, le gouverneur y vient, il fait une bêtise avec elles. Ça, c'était les Grecs. Alors, Daniel, il a dit ça dans sa névoie. Ils vont venir des Grecs en Eretz Israël, ils vont être gozer comme un panthère. Ah, les Juifs vont dire, alors je ne veux pas monter en Eretz. Mais le prophète, il a voulu qu'on monte, oui. Ça, c'est que Esther, il a dit, je veux que l'histoire de Purim sera me forçame. C'est à Kadébouch, il veut qu'on monte en Eretz. Et c'est pas Hachem, il fait bien. C'est lui qui fait ce qu'il veut. On est en Eretz. S'il y a un panthère, il y a un panthère, c'est pas grave, la vie continue. Et la Gzera, elle va tenir de Batel. Vous avez fait la Gmarak, tout votre premier Pérec? Hein? On n'avait pas fait. Quel jour ils se marient, les jeunes filles? Quel jour de la semaine? Hein? Mercredi. Pshhh. Mercredi. Bien. Et après, qu'est-ce que la Gemara nous raconte? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Grecs? Ils savaient que les mariages sont mercredi. Donc, ils sont toujours venus mercredi pour déranger les mariages juifs. Alors, la Gemara demande, alors pourquoi ils n'ont pas changé pour faire au mardi? On n'a qu'à faire le mariage mardi, comme ça va tromper le gars. Hein? Qu'est-ce que tu dis? J'en ai pas entendu. Ah, il y a un dramadi, pas mal. C'est la Gemara parle de ça aussi. Mais la Gemara nous dit que les Juifs, ils ont commencé à faire mardi. Les Juifs, ils ont commencé à faire mardi. Et ils ont troublé. C'était. Mais les Chachamim, ils n'ont pas dit de faire mardi. Parce qu'on n'enlève pas une takana de Chachamim. Mais c'est un danger. Mais la Xéra va être un nidbatel. Quand les goyim font du mal, après c'est nidbatel. Un takana de Chachamim, elle est plus importante qu'un accident qui est occasionnel. Il y a des accidents occasionnels, c'est pas la fin du monde, la vie continue. Et c'est ça l'Yesod. Esther, elle voulait dire, je suis restée de Sadeké, de Dieu a écouté mes prières. Un accident de parcours, je n'ai pas cherché cet accident. C'est le bon Dieu, il a fait cet accident, car Achiroch m'a touché. Moi, je ne l'ai pas cherché. C'est pas pour ça que le bon Dieu, il est fâché avec moi. S'il arrive quelque chose, le bon Dieu, il n'est pas fâché. La vie continue et on reste sadique que des gens qu'on nous aime. C'est pour ça qu'elle voulait que ce miracle sera publié et le Megillat Esther sera publié et que le Pourim sera festoyé parmi tous les Juifs pour savoir qu'Akadej Bokhu il aime même quand il y a un pancher. On n'a pas cherché. C'est bon, la vie continue. Elle voulait qu'on n'a pas peur de la nevoie de Zecharia. Elle voulait qu'on n'a pas peur dans toute l'histoire de Grecs qui vont venir. Elle va nous tirer de toutes les affaires et tous les problèmes, les affaires, et la goula viendra quand même. Bon, bonsoir.